C'est reparti pour un tour.
Arthur, on est bon?
Captain Vantus speaking, we are okay.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30.
Beaucoup de local et un peu d'autre chose.
Sonotone.
Ok.
Lunettes.
Ok. Question édito.
Ok.
Et parfois des redis.
Génial.
Décollage immédiat pour les matinales de Bartas.
Sur le 107FM.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le lundi 6 mars et il est 8h30 après quelques semaines d'absence. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve, qu'on vous retrouve pour les matinales et ça fait un mois qu'il est là, il est avec moi en studio. Salut Arthur.
Et salut Ben.
Alors juste après les titres, je te poserai 2-3 petites questions hein, pour que nos auditeurs et auditrices te connaissent un petit peu, voilà.
J'ai bien compris que c'était moi l'invité ce matin.
Ouais. Il y aura du neuf, t'inquiète pas. Alors je suis à la technique aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on a eu quelques petits soucis de saturation la semaine dernière.
De voilà. Saturnisme.
Donc voilà, et donc Véro, si tu nous écoutes, j'ai mon téléphone, n'hésite pas à m'envoyer un petit message si jamais le son est dégueulasse pour que j'essaye de régler 2-3 trucs. En deuxième partie d'émission, on repartira au Floracopoli, le premier festival de jeux. Grâce à Jacqueline, Bartas y était. Et même que c'était génial, et même que son premier reportage était quand même super cool. Donc bravo à toi et merci beaucoup. Et en dernière partie d'émission, on partira en balade avec Eric. On causera de l'architecture de nos petites villes, comme la nôtre, hein, voilà, comme Florac. La musique aujourd'hui, j'ai choisi Thomas Fersen. Et on y va, on commence par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Jusqu'ici, tout va bien. Allez, dans un marasme qui dure, une toute petite bonne nouvelle. Les États membres de l'ONU se sont enfin mis d'accord le samedi 4 mars sur le premier traité international de protection de la nature, de la haute mer, pardon, destiné à contrecarrer les menaces qui pèsent sur les écosystèmes vitaux pour l'humanité. Ça fait juste 15 ans qu'ils étaient en discussion, qu'ils essayaient de trouver un accord. Les délégués ont finalisé le texte au contenu désormais gelé sur le fond, mais il sera formellement adopté à une date ultérieure, après avoir été passé au crible par les services juridiques et traduit pour être disponible dans les 6 langues officielles de l'ONU. Le contenu exact du texte n'a pas encore été publié dans l'immédiat, mais les militants l'ont salué comme étant un tournant décisif pour la protection de la biodiversité. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, cette convention vise à traiter plusieurs vides juridiques, comme créer des aires marines protégées en haute mer, ce qui n'était pas possible avant. En effet, les États sont de plus en plus invités à créer ces aires, hein, et beaucoup créent des parcs marins dans leurs zones côtières, mais il n'y avait pas de mécanisme international pour créer des aires marines protégées en haute mer. Il y avait aussi beaucoup de débats sur les ressources marines génétiques et c'est important de noter qu'un accord plus équitable a pu être trouvé. Dans les eaux profondes, on a en fait des écosystèmes qui se développent dans des conditions extrêmes, température, pression, acidité, etc. Ces écosystèmes contiennent des molécules très intéressantes pour l'industrie cosmétique et pharmaceutique. Avant cet accord, la règle c'était premier arrivé, premier servi. Bah aujourd'hui, les États se sont mis d'accord sur un mécanisme qui permet de partager les bénéfices engendrés par l'exploitation de ces ressources dans ces eaux internationales. Une partie des bénéfices sera donc redistribuée à la communauté internationale et aux États du Sud. Voilà pour le début, on en reparlera lorsque l'accord et la rédaction finale aura été faite, c'est-à-dire dans quelques mois, enfin espérons pas dans 15 ans. Alors la question peut paraître un peu bateau Arthur, mais comment tu vois toi un peu les décisions prises par les gouvernements pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi la chute de la biodiversité, le méga cataclysme annoncé, même si Macron a dit qu'il aurait pu prédire? Comment tu vois tout ça toi?
Ce que je trouve compliqué, c'est que évidemment c'est nécessaire, mais à la fois on n'est jamais trop sûr de la... que ça va arriver ou pas, enfin que ça va se faire, que ça va se concrétiser. J'ai l'impression que c'est un peu le même rapport que la communauté internationale elle a, je sais pas, par exemple dans le fait d'arrêter les guerres. Ça va être à peu près le même signe, c'est-à-dire
c'est
que
une
tu
belle image, hein.
Oui, que tu te dis bah. Oui, on peut intervenir, alors ça dépend aussi des intérêts, enfin, c'est très lié aux intérêts, c'est très lié, la vitesse de réalisation des décrets et tout est toujours très lié aux intérêts, donc c'est... Ouais, moi je vois surtout ça, donc j'essaye toujours, quand je vois une information comme ça, de me dire, ok, quels sont les intérêts là. Je trouve que tu les as bien retrouvés, c'est-à-dire qu'il y a l'industrie cosmétique qui est derrière et qui dit, ah ok, d'accord, il faut qu'on clarifie ça dans le droit, enfin, c'est sûr. Je pense que du coup, les territoires qui sont toujours oubliés sont ceux où les intérêts sont les moins forts. Et donc, on peut toujours aussi rester dans cette vision de l'écologie très liée à l'humanité.
Mmh. Ouais. Alors, t'es plutôt engagé, hein. On l'a entendu avec le reportage que t'as fait dans la matinale du 15 février sur la manifestation. Très intéressant, d'ailleurs. que vous pouvez réécouter, d'ailleurs, sur radiovartas.net, évidemment. Comment t'as construit tes idées et ta conscience politique ?
En général ou dans le reportage ?
En général. Et puis, qui est retranscrit dans le reportage que t'as fait ?
J'ai beaucoup lu, mais surtout, je pense que j'ai essayé d'expérimenter des modes de vie ou des pensées politiques dans les faits. Ouais, je sais pas, j'essaye de mettre les idées en concret. Quoi. Enfin,
lundi matin, c'est intéressant.
C'est-à-dire lundi matin.
De mettre les idées dans le concret.
Ouais, oui. Non mais ouais, je sais pas, j'essaie de rendre ma pensée la plus concrète possible pour aussi m'éloigner des bouquins, même si les bouquins sont hyper importants. Je pense que...
Et la parole politique aujourd'hui, elle t'intéresse encore ou finalement tu dis que ça mènera nulle part?
La parole politicienne ou la parole politique?
Ouais, c'est vrai que c'est deux choses différentes. Allez, disons la parole politicienne.
La parole politicienne, non, pas tellement. Non, elle m'intéresse pas tellement. Enfin, je me tiens au courant parce que c'est pareil, ça m'intéresse. Enfin, je suis quelqu'un, je sais pas, j'aime bien voir le cynisme dans une chose. Donc, à la limite, ça m'intéresse de. Enfin, je sais pas, je le prends plutôt comme une blague avec le truc de putain, mais qu'est-ce qu'ils ont encore pondu, qu'est-ce qu'ils peuvent encore nous inventer, etc. Mais je mords pas l'hameçon sur les promesses ou. Enfin, même la gauche, hein, je trouve ça compliqué de continuer à les écouter après toutes ces trahisons. Enfin, voilà, on voit par exemple les tentatives de LFI de dire on se revendique pas de la gauche pour échapper à ça, mais d'un autre côté, ils font les mêmes choses. Donc, enfin, c'est... Oui, non,
j'entends bien, en tout cas, je comprends. Alors justement, comment toi, parce que tu dis que tu tiens au courant quand même, comment tu t'informes ?
Je m'informe quand même via les médias, après j'essaie de recouper plusieurs sources. J'essaie de lire la presse indépendante, militante aussi. Je sais pas si par exemple un événement, je sais que je peux l'appréhender par le témoignage direct d'un ami ou de quelqu'un que je connais, je vais essayer aussi de privilégier ce genre de choses, ce genre d'informations, enfin... Ouais, je vais essayer vraiment de recouper plusieurs sources, quoi. Ça va vraiment être le truc pour me faire une idée un petit peu.
On va changer totalement de sujet et parler vraiment de ce qui t'a amené ici en Lozère. Tu nous viens d'où et qu'est-ce qui t'a amené en Lozère ?
Oh là, c'est une grande question. Moi, j'ai plutôt été dans les villes. Après, je pense comme beaucoup de personnes ici. Plutôt au nord de la Loire aussi, comme beaucoup de personnes ici. Non, je suis venu en Lozère à la base parce que j'ai fait mes études à Montpellier, j'allais souvent dans les Cévennes. J'aimais beaucoup les Cévennes, enfin, j'allais souvent me promener, j'ai pas mal découvert ce coin-là à ce moment-là. Et puis voilà, il n'y a pas longtemps, il y a eu l'envie de quitter la ville. Et du coup, ouais, j'ai tout de suite pensé à ce coin. Du coup, j'ai plutôt habité dans le sud des Cévennes au début. Et puis ensuite, j'ai découvert Florac. Enfin, je connaissais un petit peu, mais ouais, j'y suis venu et je suis très bien ici.
Tu m'étonnes. Alors, tu viens du cinéma. Donc, tu as fait des études de cinéma, c'est ça ?
Ouais.
C'est très différent de la radio. Ou est-ce que tu trouves des similitudes et des choses là ? Bon, ça fait quoi ? Ça fait un mois maintenant, un peu plus d'un mois que tu es là ? C'est ça ? Oui.
Ouais.
Un mois, ouais, quasi.
Ouais, ça fait un mois.
Est-ce que tu trouves des similitudes ou alors tu dois vraiment t'adapter à la radio ?
Mais bien sûr, c'est pas les mêmes technologies, c'est pas les mêmes, c'est pas le même médium, donc il y a beaucoup de choses à réapprendre, ça c'est sûr.
Est-ce que dans la création, par exemple, de reportages ou de jingles ou de génériques, il y a quand même des choses peut-être dans l'écriture qui pourraient y faire penser ?
Oui. Alors déjà, même déjà dans le cinéma, je trouve que le cinéma il recoupe énormément de choses différentes. Ça recoupe l'écriture, ça recoupe le montage, ça recoupe la dramaturgie, ça recoupe énormément de choses qui font que tu dois construire des histoires, que tu dois penser des dispositifs, etc. Et ça, c'est vrai qu'on le retrouve carrément dans la radio. Donc c'est clair que en fait, quand on essaye d'entraîner son cerveau à créer, ben on peut le faire sur plein de domaines différents, dans la musique, dans le dessin, je sais pas. La radio, enfin, c'est vrai que j'ai l'impression que ça c'est valable pour tout le monde. Il faut entraîner son cerveau à créer, et c'est que comme ça qu'on peut changer de médium plus facilement. Même si techniquement il faut apprendre des choses, ça c'est pas grave. Enfin, on réussit à apprendre à se brosser les dents, on peut arriver à apprendre à faire de la radio. Je sais pas.
Je vois que Véro est là et qui me dit que tout va bien. Voilà, c'est trop bien. Merci beaucoup, ma Véro. Alors justement, cinéma, est-ce que qu'est-ce qu'on apprend quand on fait des études de cinoche ?
Eh bien, ça c'est une bonne question.
Ah, ouais. C'est cool.
C'est une bonne question.
Ça m'arrive des fois.
Parce que je me suis posé la question très souvent aussi. Figure-toi. Merde, mais qu'est-ce que je fous là en fait ? Non, parce qu'il y a vraiment une partie des études de cinéma qui va être quand même. Moi j'ai fait la fac, donc c'est quand même beaucoup de théorie. Donc tu te retrouves à faire beaucoup de théorie alors que toi t'as envie de faire des films. Quand tu rentres à la fac, tu te dis ah, j'ai envie de faire des films, etc. Mais en fait, on n'apprend pas rien là-dedans quand même, parce qu'on crée une pensée sur le cinéma, on apprend à lire des images, et donc du coup on entraîne son regard aussi. Donc au moment où on veut faire des films, c'est beaucoup plus facile aussi, parce qu'on sait analyser un film, on sait comment est construit une scène, comment on crée une tension, toutes ces choses qui font que en fait t'as une espèce de myriade de possibilités en tête au moment où tu vas commencer à créer. Donc moi je trouve que c'est pas inutile du tout, et j'ai souvent remarqué que au contraire, genre les personnes qui faisaient des études de cinéma très techniques, dans des écoles assez poussées, qu'elles soient privées ou publiques d'ailleurs, mais qui se concentrent beaucoup sur la technique, souvent dans les films de fin d'études, c'était assez pauvre au niveau du contenu. Il y avait quelque chose où les procédés étaient souvent très techniques, très plastiques, mais ça manquait de philosophie, ça manquait d'histoire, ça manquait de conscience de l'image, etc. Enfin, sans vouloir jouer à Jean-Luc Godard, etc. quoi. Enfin, il y a vraiment un truc. Ouais, je trouve les écoles de cinéma, elles pensent pas à tout ce que fait le cinéma, c'est-à-dire le contenu aussi, quoi, le fond d'un film, quoi. C'est vraiment que la forme, quoi. Donc c'est, moi je suis quand même content des études que j'ai fait par rapport à ça, parce que c'est.
Mais alors justement, parce que bon, tu dis que t'as fait beaucoup de théorie, mais t'as quand même réalisé quelques projets ou
Ouais, un petit peu. Alors surtout en collectif, donc pendant mes études avec des amis, etc. Enfin, on était vraiment on essayait d'expérimenter dans le cinéma. Des formes un peu différentes et des manières de filmer aussi un peu différentes. Après, j'ai fait des études en cinéma documentaire. Et là, j'ai pas réalisé de film, mais j'ai été monteur. Donc voilà, j'ai aussi exploré une autre partie du cinéma qui me plaît beaucoup et que je retrouve beaucoup dans la radio, pour le coup. Le montage, ça, c'est vrai que j'en fais beaucoup. Donc c'est en fait.
Ouais, c'est clair. Enfin, moi, je trouve beaucoup plus difficile de travailler l'image que le son, mais c'est peut-être parce que je fais du son depuis toujours. Alors, c'est vraiment la même chose ou
Alors, vraiment, surtout dans le cinéma documentaire, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à faire accepter la caméra aux gens.
Ouais.
Ça, je trouve que c'est vraiment très difficile.
Et toi qui as fait 2 ou 3 ou 4 reportages, je sais pas à combien t'en es là, mais.
Le son, je trouve ça beaucoup plus facile.
C'est plus simple.
Bah, tu peux vraiment regarder la personne dans les yeux et avoir le micro dans la main quelque part, et bon, le faire oublier au bout d'un moment, et donc du coup que les gens oublient le dispositif, ça je trouve ça très très fort. On est quand même conscience pour formuler leurs pensées, etc., mais l'oubli, là où la caméra, bon, tout le monde pense à l'image, aux réseaux sociaux, enfin c'est encore plus dur avec en fait tout cet aspect là quoi.
C'était quoi ton rapport à la radio avant que t'y bosses?
J'attendais vraiment de la radio qu'elle me donne des informations, mais je l'ai assez peu vu comme un médium de créativité, parce qu'on écoute assez peu la radio en fait. Donc du coup, tout ce qui était création sonore, je l'entendais souvent en dehors de la radio. Mmh. Et maintenant, je me rends compte en remplissant le logiciel de programmation, etc. Enfin, que en fait, en écoutant les émissions qu'il y a aussi des émissions de création sonore et qu'il n'y a pas que de l'information à la radio. Et donc ça, c'est chouette en fait.
C'est sûr. Allez, pour terminer, est-ce que tu nous donnerais un petit conseil de film ?
Petit conseil de film.
Ou un grand, hein.
Ou un grand conseil de film.
Tu peux même me dire Avatar 2.
Les films de Jean-Gabriel Perriot qui sont très très chouettes. C'est des documentaires très chouettes, assez politiques justement. Mais ouais, je les conseille.
Et auditeurs, auditrices, si jamais vous croisez Arthur dans la rue, n'hésitez pas à lui parler avec son micro. Il n'y a pas de souci, il fait ça très bien. Et avec le sourire, merci beaucoup.
Merci.
Et puis, c'est un vrai plaisir de travailler avec toi tous les jours. T'as le sourire, c'est marrant.
Et super.
Trop bien. On part pour le festival Floracopoli dans un instant. On écoute d'abord Thomas Fersen. Le morceau s'appelle Deux Pieds. On est bien sur Bartas.
On me dit que je suis paresseux, que je ne fais que ce que je veux, c'est-à-dire pas grand-chose. On dit que je me repose. Je suis désolé, je n'ai que deux pieds, je n'ai que deux pieds, franchement désolé. La vaisselle envahit l'évier, et le linge déborde du panier. J'ai les cheveux sales, je suis barbu, mais je m'en vais, mon café bu. Je suis désolé, je n'ai que deux pieds, je n'ai que deux pieds, franchement désolé. Et moi j'aime regarder les travaux. On me dit du balai plus vite que ça s'il vous plaît. Moi je suis désolé, je n'ai que deux pieds, je n'ai que deux pieds, franchement désolé. Elle me dit que je suis en retard, que je me coiffe avec un pétard. Elle veut déplacer les meubles, je suis pas là pour déplacer les meubles. Je suis désolé, je n'ai que deux pieds, je n'ai que deux pieds, franchement désolé.
Ça s'est passé le dernier week-end de janvier à Florac. Floracopoli, le premier festival de jeux, et grâce à Jacqueline, Radio Bartas était là. Tout commence ici, le vendredi, la veille, avec Marc, des amis de la bibliothèque, l'asso qui t'a l'initiative de l'événement.
Alors, nous sommes au foyer rural, en train de préparer le festival de Floracopoli, donc le festival de jeux. Ça démarre demain, à 9h du matin.
Vous êtes fin prêt ?
Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on est prêt, évidemment.
Vous n'avez pas besoin de quelques bénévoles supplémentaires pour le petit coup de main ?
Toutes les mains sont les bienvenues, mais sinon, c'est vrai qu'on a eu pas mal de bénévoles qui sont inscrits, donc ça c'est très chouette là, pour la première édition. Il y a vraiment un engouement de la part de tout le monde pour venir nous aider, donc ça c'est très bien.
Bon, qu'est-ce qu'on dit alors à Floracopoli?
On dit, venez jouer, simplement, venez vous amuser et profiter d'un week-end de folie. Hein. Il y aura vraiment de tout, hein. des jeux de société un peu plus pour experts, mais aussi pour débutants, hein. Ceux qui n'ont jamais joué à des jeux de société, qui n'hésitent pas à venir. Il y a des jeux vraiment très faciles à prendre en main, qui ne durent pas très longtemps non plus. Et puis, il y aura aussi des jeux en bois, des jeux géants, des jeux de construction. Il y aura aussi des murder parties, hein, donc il y aura un peu de sang. Et il y a encore plein d'autres choses, plein d'autres petites animations qui seront disséminées par-ci par-là, notamment du jeu de rôle.
Eh bien, merci Marc, et à demain.
Attention, vous posez les pieds. Vous arrivez sur l'île infernale.
Alors, nous sommes ici au foyer rural et il y a plein de petits mondes. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici avec votre petit bébé de 4 mois.
Oui, c'est ça.
Vous avez d'autres enfants ?
J'ai ma moyenne qui est là, qui a 3 ans. C'est l'association Naître et Grandir avec le festival du jeu Floracopoli. On intervient et on propose des jeux pour les enfants de 2 à 6 ans. Et effectivement, il y a beaucoup de monde.
C'est pas la peine de vous demander comment vous avez connu Floracopoli.
Non, on a été. Ils nous ont demandé de faire un partenariat avec Naître et Grandir.
Ici, là, il y a pas mal d'enfants. C'est, en gros, c'est de quel âge à quel âge ?
Ça va de 2 à 6 ans à peu près.
Ça se passe plutôt bien, on dirait.
Et j'ai l'impression que tout le monde est ravi, oui.
Il y a vraiment une super ambiance. Les enfants sont tranquilles. C'est vraiment étonnant.
On voit un beau moment de partage entre parents et enfants.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Bonjour.
Bonjour.
Vous venez de quel village ou de quelle ville ?
Je suis dans le Val-d'Aunès.
Et vous avez connu Floracopoli comment ?
C'est une amie des environs de Florac qui m'a fait suivre l'info. Et voilà, comme les enfants aiment bien jouer, on a décidé de venir.
Là, vous démarrez à peine le jeu. Est-ce que vous êtes passé à la mairie pour démarrer le véritable parcours dans Florac ?
Non, pas encore. En fait, on vient de se garer devant le foyer rural et on vient jouer avec l'atelier de Naître et Grandir pour les plus jeunes.
Et bah, bon festival et merci. Au revoir. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on est où ici, là, dites-moi ?
On est devant le foyer rural de Florac.
Ça sent bon, on dirait.
Oui. On a des sablés, là on vend des gâteaux à l'ortie et au chocolat, des sablés au sésame. Et voilà, on essaie de réchauffer les mains des gens avec du chocolat chaud aussi.
Vous êtes bénévole d'une association ?
Oui, de l'association Esprit des Bois.
Il y a un petit peu de monde là, dès ce matin, il est quand même presque 11h.
Alors, moi je viens juste d'arriver sur le stand, donc j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de passage, ouais.
Et vous êtes joueuse ?
Oui, là je viens d'aller voir les jeux vidéo, j'adore les jeux vidéo. Qui se trouve à l'étage du foyer rural là-haut.
Merci, bonne journée.
Bonne journée.
Du coup, ça fonctionne là les...
Plus ou moins.
Bon, tu as eu du monde quand même ce matin ?
Ce matin, oui, principalement des enfants, mais après, on a eu, je pense, une petite quinzaine de personnes.
Alors, pour tout vous dire, on est tout en haut du foyer rural et c'est le lieu de, on va dire, des jeux vidéo, hein ?
C'est ça, tout à fait. Tu veux que je te présente peut-être un peu ce que j'ai essayé de sélectionner ici ? Donc, en fait, j'ai sélectionné uniquement des jeux indépendants, c'est-à-dire créés en dehors des studios. C'est comme au cinéma, il y a le cinéma blockbuster et puis le cinéma indépendant. Donc là, il n'y a que des jeux qui ont été créés par des petits groupes de personnes. Ça me permet comme ça de faire découvrir un peu aux gens qui viennent des jeux un peu différents. Et puis j'ai privilégié des jeux multijoueurs en coopératif et en compétitif. Donc comme ça, quand les gens viennent, ils peuvent se disputer pour différentes raisons.
Et tu as un panel d'âge de d'où à où, là ?
Alors, les plus petits que j'ai eus, ils avaient 5-6 ans. Donc, voilà, j'aurais trouvé des jeux qui pouvaient correspondre à leur âge. Donc, c'est des jeux, par exemple, c'est ça qui est bien avec le circuit indépendant, c'est qu'il y a des jeux de ce type, des jeux qui sont, par définition, difficiles à contrôler. Et du coup, tout le monde est à égalité. Ceux qui savent bien jouer, ceux qui savent pas bien jouer. Le personnage étant incontrôlable, c'est de toute façon amusant pour tout le monde. Et au niveau des performances, c'est basé un peu sur la chance. Donc, voilà, ils se sont bien amusés, ils ont jouer à 4 ou 5 à ça. Après, j'ai eu des groupes de jeunes du coup qui ont pu jouer à des jeux un peu plus complexes, on va dire, à la fois en termes mécaniques et on va dire intellectuels. Voilà, après, c'est tout public ici. Donc.
Merci bien. Bonjour.
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 Vous êtes joueur ?
Alors, il semblerait.
Vous venez de quelle ville ou quel village ?
Alors moi, je viens de Marcillargues dans l'Hérault, à côté de Lunel.
Et moi, je suis de Porte dans le Gard.
Vous n'êtes pas là par hasard ?
Évidemment que non.
Non, non, on est spécialement là pour le Floracopoli.
Dites-moi, là, vous étiez en train de jouer à quoi, là ?
Alors, ce jeu s'appelle Flamme Rouge. C'est inspiré sur les courses cyclistes type Tour de France. Et il faut donc arriver premier, hein, comme dans toutes les courses. Tâche dont je me suis habilement acquitté, d'ailleurs.
Vous êtes déçu ?
Non, pas déçu, parce que j'ai la victoire modeste et la défaite facile, donc ça va, je m'en accommode.
Il termine à 3 reprises deuxième du tour, perdant magnifique, comme la France les aime.
Je suppose que vous avez vu le flyer. Est-ce que vous allez continuer votre tour dans Florac ?
Oui, on va essayer de voir les autres lieux qui mettent des jeux à disposition et faire un petit tour tout au long de la journée.
Et vous êtes là encore demain ?
Probablement pas, non, ça dépend de la route, des conditions.
Oui, enfin, si on est bloqué par la neige pour rentrer, on sera évidemment là. Peut-être un peu dur et un peu rigide, mais d'où le vin chaud.
Eh ben, merci beaucoup et puis bon festival.
Merci beaucoup.
Comment avez-vous connu Floracopoli ?
Alors pour ma part, la boutique de jeux sur Alès sur laquelle je joue notamment le vendredi soir avait les affichages donc par rapport à l'événement et également sur les sites internet de référencement des rencontres de jeux au niveau national. Il y avait un onglet assez facile à trouver.
Oui, c'est exactement ça. Il y a des sites qui recensent les événements et comme un local c'était le plus proche de chez nous et qu'on souhaitait découvrir ça, c'est les réseaux sociaux.
Bonjour Olivier.
Bonjour Jacqueline.
Alors on est où ici ?
Ben, on est au Florus, au parc Maury, quoi, si tu veux.
Et dis donc, ça sent bon. Qu'est-ce que vous faites là ?
Alors on a plein de choses. On a des crêpes, on a des pains d'épices, on a des boissons diverses et variées, des sirops, jus de pomme, de la bière quand la tireuse sera prête, ce n'est pas encore le cas, du vin chaud, du vin pas chaud, enfin plein de petites choses vraiment qui vont être superbes pour tout le monde, je suppose.
Et c'est quoi un peu les heures d'ouverture alors ?
Mais là, ça commence à 11h, ce soir, ça va être jusqu'à 23h à peu près. Et demain, ça recommence à 9h jusqu'à 17-18h, je pense.
Et j'ai l'impression qu'il y a du monde.
Ça commence. Ah.
Merci. Alors là, je suis devant 3 personnes qui font un truc assez rigolo. C'est une histoire d'équilibre. Ça s'appelle comment ce jeu ?
Jeu d'équilibre géant.
Ah, voilà, jeu d'équilibre géant. Et c'est assez... C'est une espèce de rondelle qui est sur une ficelle et chacun pose des... Et vous n'avez pas le choix, c'est ça. C'est le dé qui décide de ce que vous allez mettre sur la rondelle.
Et nous choisissons la petite pièce que l'on va mettre.
Donc là... Il a joué 3. Waouh! Et voilà, tout s'est cassé la figure. Bon jeu.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, tu es ici au Florus, tu es devant ton ordi. Est-ce que tu es là pour le festival du jeu ?
Alors, à la base, non, mais il y a des choses qui m'intéressent.
Tu as trouvé quoi qui t'intéresse ?
Bah, alors, c'est pas tout de suite, mais il y a quelques jeux de société qui m'intéressent, mais il y a aussi l'initiation au jeu de rôle que j'aimerais bien essayer, ou encore la Murder Party.
Murder Party qui aura lieu demain.
Ah bon ? C'était pas aujourd'hui ?
Non. Ah ! Tout est marqué sur le flyer. Eh bien, écoute, je te souhaite un bon festival.
À vous aussi.
C'est joli. Ouais.
Alors, nous sommes à la médiathèque et je vois une petite fille qui va jouer avec un dé. Tu nous montres comment tu vas jouer ?
C'est la petite souris qui va jouer.
C'est la petite souris qui va jouer parce que... Ouais. Alors, c'est un petit dé de couleur. Ah, il y a deux dés en plus. Alors, un, deux, trois. Ouais. Et là, on a du jaune et trois. Et donc... Ouais, mais elle a raison. Marilyn adapte. Et c'est drôlement bien.
Tu veux choisir la couleur ? C'est laquelle qui avance ?
Et donc, il y a quatre petites coccinelles qui vont avancer.
La bleue ?
Mais je crois que je l'impressionne avec le micro. Ça lui fait un petit peu peur. Donc je vais me mettre derrière et on va voir. Bravo! Elle a quel âge cette jeune fille?
Elle a 2 ans.
Ah oui, et c'est évidemment son premier Floracopoli.
Ah ben oui, oui, de toute façon c'est la première édition je crois.
Oui, exact.
Donc c'est ma première édition aussi, ouais. Du coup.
Et alors, vous en pensez quoi ?
Ben, on vient à peine d'arriver, mais je crois que c'est une très très belle initiative, très ambitieuse. Et j'attends de voir la suite, mais je suis très enthousiaste.
Alors, bonjour.
Bonjour.
Alors, dis-moi, je t'ai vu tout à l'heure... manger dans la salle du Fleurus, mais là maintenant nous sommes à la médiathèque. Qu'est-ce que tu viens faire ici?
Je viens faire des jeux et je lis des fois.
D'accord. Tu as déjà testé d'autres jeux ce matin avant de manger?
Oui.
Qu'est-ce que tu as testé?
J'ai testé qu'un jeu, mais je ne sais plus comment ça s'appelle.
Ouais. Et ce jeu-là t'a plu?
Oui.
Est-ce que tu es quelqu'un qui joue beaucoup d'habitude?
Oui.
Tu es déjà venu à des soirées jeux ou des soirées jeux avec les amis de la bibliothèque?
Oui.
Et là, tu vas continuer en faisant quoi alors? Tu vas rester ici ou tu vas aller te promener dans les autres endroits?
Je vais rester ici, je pense.
Je peux te demander ton âge, c'est indiscret?
Oui, 11 ans.
Et donc, ben, bon festival.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, dites-moi là, on est à l'Embuscaf et vous êtes là pourquoi ?
Pour profiter des boissons de l'Embuscaf au chaud et éventuellement de jouer à quelques jeux.
Floracopoli, vous en avez entendu parler quand et comment ?
J'en ai entendu parler il y a peut-être un mois par Antoine Frima de la bibliothèque. Et puis récemment, bon, quand la publicité est sortie, là, enfin, les affiches sont sorties. Voilà.
Et l'Embuscaf, c'est votre première escale ?
Ouais, je vais peut-être faire un petit tour. Demain, je vais aller au foyer rural. Apparemment, il y a un tournoi de Mario Kart. Voilà, ça me parle.
Et vous en pensez quoi de ce festival, là, pour l'instant ?
Eh ben, là, je viens d'arriver cet après-midi. J'ai vu qu'il y avait un peu de monde ce matin. Je trouve que c'est une super initiative. Il y en avait déjà un festival qui était à Alenc, je crois. Et ça ramène pas mal de monde. C'est vachement bien. Et que ce soit en plein hiver comme ça, il faut saluer l'initiative. Et donc, voilà, c'est pour ça que je me suis déplacé aussi.
Merci.
Hop là.
Alors,
c'est bon ?
Explication à l'encrier.
Alors, pour les derniers arrivés, je répète, l'objectif, c'est de mettre la dernière boule sur le sommet de la pyramide. Chacun joue une boule d'une couleur à son tour, donc il y a les blancs d'un côté et les noirs de l'autre. Quand on pose une boule et qu'on fait un carré, on a droit de prendre une boule, non pas de sa réserve, mais qui est sur le plateau, pour la mettre au sommet du carré, d'accord ? Quelles que soient les couleurs. Quand on finit un carré de la même couleur, on a le droit de reprendre une à deux boules. Bon, autant en prendre deux, d'accord ? Voilà. Donc à partir de ça, il y a des règles qui permettent de récupérer des boules et donc d'en dépenser moins, sachant qu'il faut en conserver le plus pour finir le dernier. Voilà. Donc voilà, c'est des règles assez simples.
Autre explication à l'encrier.
Économie éducative. Ouais, nous venons de gagner l'autonomie éducative.
Il s'agit d'un jeu qui s'appelle
Autonomie Zapatique.
Marianne, tu peux nous en dire un tout petit peu ?
Ben oui, c'est un jeu coopératif qui consiste à essayer de gagner l'autonomie d'une communauté, bien sûr, voilà, un peu imaginaire, mais une communauté où il y a quand même, voilà, l'autonomie alimentaire, l'autonomie sur la santé, sur l'éducation, sur sur la culture, sans les médias. Voilà, et ce jeu se joue donc ensemble, sur la base de gagner cette autonomie. Et le but, c'est d'obtenir... à la fin, on a gagné quand on a gagné tous les objectifs des apatistes. Donc, ils peuvent être la culture, la paix, l'information, l'éducation, etc. Et également tous les principes apatistes. Et le problème, c'est qu'il y a un contexte extérieur qui n'est pas forcément très, très favorable. Il y a quelques cartes de contexte favorables, mais la plupart des cartes de contexte sont plutôt défavorables. Par exemple, l'État, l'armée, ou encore les paramilitaires, ou encore les méga-projets qui vont venir nous enquiquiner, ou quelquefois aussi des catastrophes plus ou moins naturelles. Voilà. Et ça, ça bloque un petit peu des projets d'autonomie. Et donc, il y a toute une discussion autour de la table pour savoir qu'est-ce qu'il vaut mieux gagner en autonomie. Est-ce qu'on autonomise le secteur de la santé, mais au détriment d'autres choses, etc. La base étant de manger.
De survivre.
Ouais, de manger. Ouais, l'autonomie, on se rend compte dans ce jeu que l'autonomie alimentaire, c'est vraiment fondamental. Que sans autonomie alimentaire, on ne peut pas faire grand-chose. Donc voilà.
Voilà, nous sommes sur la voie de l'autonomie, toutes formes d'autonomie, et sur la voie de l'indépendance. Nous sommes très optimistes. Nous pouvons nourrir la population presque ce tour-ci. Bon, malheureusement, il y aura une personne qui ira à l'infirmerie, mais on va vite elle va vite se rétablir. Tout va bien.
Toi, tu débarques, mais tu connaissais ce jeu ?
Ah non, pas du tout. Et là, je viens d'apprendre sur le tas à partir du 4e tour, donc ça va, je reprends le train en marche. Ouais. Mais ça va, c'est assez simple. Enfin, je sais même pas le nom.
Zapata, c'est ça ? Zapati, l'indépendance zapatiste, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Voilà. Zapata, c'était un révolutionnaire du début du 20e siècle, la révolution mexicaine du début du 20e siècle. Et donc, ils se sont appuyés sur la révolution zapatiste. Et Zapata, c'était un révolutionnaire qui avait beaucoup travaillé sur la question de l'autonomie alimentaire justement, et d'autonomie paysanne.
Eh bien, merci et bonne continuation vers cette belle utopie. Bonjour, Dja.
Bonjour.
Alors, dis-moi, c'est toi qui assures là au niveau des repas?
Ouais, les repas pour les bénévoles. Je suis en train d'émincer, ou plutôt on va dire que je vais tailler finement des herbes de mon jardin. Là en l'occurrence, seulement deux herbes, du coriandre et du persil. Voilà, parce que je suis en train de faire une sauce blanche pour les falafels que j'ai préparé pour ce soir pour les bénévoles. C'est important que les bénévoles soient bien nourris quand même. Hein, on est d'accord que... Et là, cette année, c'est vrai qu'enfin, en tout cas pour cet événement associatif, il y avait une volonté à ce que les bénévoles soient bien nourris. Et moi, ma spécialité, c'est la bonne nourriture, toujours qu'avec des produits bio et locaux. Voilà. Donc la plupart du temps, des produits, tout ce qui est végétal, c'est en grande partie issu de mon jardin. Les navets, les carottes, les oignons, etc.
Et je vois que tout ça est bien appétissant. Eh bien, écoute, merci, merci, Dja. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez de quel village ou quelle ville ?
Je viens de la ville d'Allou, à proximité de Marseille.
Ah, mais vous venez de loin. Comment avez-vous eu connaissance de Floracopoli ?
Bien, je suis passé par les Cévennes il y a quelques semaines et j'ai vu une affiche et je me suis dit que ce serait un bon prétexte pour revenir dans la région. Bon, là, je sors juste de la mairie où j'ai pris une petite brochure et je commence juste ma petite tournée en me réchauffant avec une infusion pour me donner des forces pour la suite. Et je reste jusqu'à lundi.
Là, c'est un peu court, mais comme ça, a priori, premières impressions.
Eh bien, enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt bien organisé. J'ai déjà pu voir des beaux jeux en bois faits maison. Et ça me fait plaisir parce que je travaille moi-même dans une ludothèque associative à Marseille. Donc, je connais déjà un petit peu ce genre de choses. Et j'ai l'occasion, durant mon travail, de présenter des jeux de ce type. Donc, ça m'a fait plaisir de voir qu'à Florac, il y avait aussi des gens qui aimaient les jeux et qui en fabriquaient.
Eh bien, merci et bon festival.
Et voilà pour ce reportage sur le Floracopoli. Merci beaucoup à toi, Jacqueline. Jacqueline qui anime Compte Goutte sur cette antenne sur Radio Arthas. C'était son premier reportage. Eh bien, en un mot, bravo. On part en balade dans un instant. Petite balade architecturale, ça va pas faire de mal. On écoute tout de suite Hyacinthe, Thomas Fersen.
Il a un prénom de fleur et des cheveux qui s'en vont, et ses grosses mains d'étrangleur sentent le savon. Hyacinthe, Hyacinthe, je lui confierai pas ma sœur, je refuserai son parapluie et je prendrai pas l'ascenseur tout seul avec lui. Hyacinthe, même s'il sent la camomille, même s'il propose des cachous, même si je me sens en famille en présence d'un fou. Il a un rire de fillette quand un oiseau du seigneur dans ses grosses mains d'étrangleur vient manger des miettes. C'est peut-être moi qui déraille, mais si j'étais une caille, j'aimerais mieux mourir de faim que de manger dans la main de Hyacinthe. C'est formidable boudin, on en fait jaunir plus d'un, parce qu'avec un herbe noir, il brise une noix. Moi-même je change de couleur, je me sens devenir liquide, je me sens tomber dans le vide. Quand Hyacinthe l'étrangle croise le chemin. Cheveux rares, barbe noire, je rajoute un entonnoir dans un coin de mon cahier. Je fais le portrait de Hyacinthe. Malgré mon trèfle à quatre feuilles, ma médaille de communion, je vais plus au WC tout seul, sans appréhension. Si vous rencontrez Hyacinthe, alors que le jour s'enfuit, alors que la cloche tinte, alors qu'il s'ennuie, sans un cri, sans une plainte, sans un bruit, sans une quinte, vous partirez faire fortune dans la région de la lune. Car lorsqu'il pète un fusible, il n'a plus le sentiment, mais il a les pieds sensibles, et dans son logement. Hyacinthe prend ses pieds dans une bassine et rompt avec le passé, sa conscience assassine de fleurs est tapissée.
Partir pour une petite balade dans les rues de Florac pour parler d'architecture, d'urbanisme avec Éric Dessolier qui est chargé de mission urbanisme et paysage au Parc National des Cévennes. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer par une petite description avant de descendre au bord de la rivière, au bord du Tarnon, à Florac, décrire un peu ce qu'on voit et comment cette ville s'est bâtie. On va parler après de l'architecture en Lozère et puis peut-être aussi de comment les institutions publiques, quelles décisions sont prises pour conserver notre patrimoine bâti. Ah, nous voilà en bord du Tarnon. Comment tu décrirais ce qu'on voit ?
Bah déjà, ce que j'aime bien en fait au bord de la rivière, au bord des éléments naturels proches des villes, c'est finalement le paysage le plus ancien de la ville. C'est le socle en fait. C'est au bord d'un paysage comme ça, c'est proche des ressources naturelles locales que se construisent les villes et les villages. Donc c'est souvent en fait ce qu'il y a de plus ancien. Alors c'est peut-être simple à dire, mais c'est vachement intéressant déjà de se le dire et d'aller au bord de la rivière, puis de se dire en fait c'est au bord de ça qu'on a construit la ville, quoi. La rivière, c'est un paysage souvent calme, mais qui peut être colérique également, surtout ici en montagne. C'est un endroit où on voit la roche. Moi, je recommande à tout le monde, tous les gens qui nous écoutent, là, d'aller au bord de la rivière, proche de là où ils habitent, et puis de se poser la question de la roche sur laquelle on est. C'est souvent la roche qui a été utilisée pour bâtir la ville. Et la manière dont se posait aussi la question de la manière dont ont été aménagées les rives de cette rivière. Est-ce que ça a été artificialisé, canalisé, ou est-ce qu'on a laissé la rivière dans son élément un peu naturel, un peu sauvage? Ici à Florac, c'est un peu des deux. On voit bien qu'on a fait passer les réseaux routiers proches de la rivière, donc on a dû construire des soutènements, on a dû s'en éloigner un peu aussi, parce que comme je le disais, elle peut être très colérique. Et voilà, c'est souvent un endroit un peu originel en fait. C'est là où a démarré quelque chose. Et alors pourquoi on s'est installé proche de la rivière ? Bah parce que c'est un élément qui apporte de l'énergie, de l'eau, donc la vie. Et par contre, on n'a pas construit tout à fait au bord parce que c'est une zone qui est inondable, potentiellement dangereuse. Est-ce que en Lozère, alors ici à Florac, est-ce que l'architecture a quelque chose de particulier ? L'architecture a toujours quelque chose de particulier, quel que soit l'endroit dans le monde, donc forcément la réponse est oui. Ici on a une architecture de moyenne montagne qui est liée aux ressources locales, donc c'est une architecture en pierre en fait, très minérale. Et puis ça dépend où on se trouve, c'est sûr que dans les vallées on a de la pierre et puis des charpentes en bois. Par contre, sur le Causse, juste là au-dessus de nous, qui est c'est une autre géologie, un autre paysage, une autre histoire, on a finalement sur le bâti ancien que de la pierre. Et on n'avait pas de charpente en bois, la couverture, la toiture était supportée par des voûtes en pierre calcaire. Donc oui, bien sûr, c'est particulier.
Alors on va remonter un peu et continuer notre petite balade vers justement le... C'est quoi ? C'est le nouveau Florac ?
Ouais, en tout cas, l'espace entre le centre ancien et la rivière, c'est les jardins. Les jardins et leur clôture en pierre, justement. En pierre, souvent, d'ailleurs, on le voit là, en pierre avec... Qu'est-ce qu'ils ont fait, les anciens ? Ils ont bâti des murs avec les pierres de la rivière. Donc on voit des murs et des boules de quartz, du granit, du schiste. Il y a tout ce qui a charrié la rivière depuis des milliers d'années. Et voilà, ils ont bâti en fait avec les matériaux en place, quoi.
Et ce qu'il y a de fou, c'est que c'est encore dans un état extraordinaire, alors que parfois ça a plus d'un siècle, deux siècles.
Ouais, tout à fait. Ça nécessite tout le temps réparation, intervention, mais c'est souvent sur des siècles et des siècles, ouais, tout à fait. Il faut voir l'épaisseur des murs aussi. Et puis les murs en pierre sèche, c'est aussi une qualité constructive, une qualité, c'est très pérenne quoi, dans le temps.
Pourquoi faut en prendre soin ?
C'est une bonne question ça. Parce que ça nous explique plein de choses. Ça c'est du patrimoine, c'est ce que j'appelle du patrimoine. Mais c'est du patrimoine qui a toujours un usage. Ce mur là qu'on voit, il protège les jardins des inondations ou du vent, etc. Ou des intempéries. Il crée aussi une limite de propriété. C'est des usages qui sont toujours actuels aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut en prendre soin.
C'est trop cool. Ce qu'on est en train de faire, c'est trop bien.
Ah, c'est sûr.
Je kiffe.
On est carrément dans le thème.
Yes.
T'sais, je dois avoir un devoir la semaine prochaine. J'aimerais pas être hors sujet.
Je m'attendais pas à ce qu'on soit dans le thème. C'est dingue.
Oh, elle est bien préparée, c'est bien. Alors là, c'est un peu les jardins dont tu me parlais, ou ouais?
Ouais, là en fait, on est sur l'espace entre le centre ancien et la rivière, à Florac, mais dans plein d'autres villes. Il s'est construit des espaces de jardins, pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur des terres inondables. Donc c'est pas là qu'on construit, c'est pas là qu'on fait notre habitat. C'est là qu'on, par contre, qu'on exploite le sol. Et le sol, il est riche, parce que le sol, il a été déposé petit à petit par la rivière, ce qu'on appelle la plaine alluviale. C'est les alluvions, c'est-à-dire c'est la terre déposée par la rivière, charriée par la rivière. Et ces terres-là, elles sont souvent très riches, très intéressantes, et surtout en Cévennes. En Cévennes, on est dans un paysage de montagne, on a des versants assez escarpés, une montagne un petit peu parfois agressive, très peu de sol. Donc le fond des vallées, il est précieux et il est unique. Et j'aime à me dire qu'à Florac, tous ces endroits jardinés entre le centre et la rivière, ils sont cultivés depuis des siècles et des siècles. Donc potentiellement, c'est des terres fertilisées, amendées, travaillées par les hommes et les femmes depuis des siècles et des siècles. Donc c'est des terres hyper intéressantes, hyper riches. Ces potagers là, tous ces jardins, ils sont vraiment à protéger, mais il n'y a même pas besoin de les protéger, je pense que les gens le savent, c'est vraiment du bon sens, c'est des terres inondables, donc on n'habite pas dessus, par contre on les exploite.
Et là on va aller direction à place de la mairie, ce qu'on appelle l'île Odide. Alors justement, puisqu'on va voir que c'est important pour les institutions, surtout locales, de prendre soin du bâti, de le rénover, de faire des choses qui ont du sens. Justement, qu'est-ce qui est mis en place par ces institutions? Les plans de, comment on appelle ça, PLU?
Ouais, documents d'urbanisme. Bon, il y a différents systèmes réglementaires, c'est sûr. En France, on est un peu champion des protections réglementaires sur le patrimoine bâti ancien. Ici, par exemple, à Florac, bon, on va avoir des périmètres monuments historiques, donc où l'architecte des bâtiments de France du département, il va donner un avis sur tout ce qui bouge, tous les permis de construire, toutes les autorisations de travaux, etc. Donc il va être un peu garant, on va dire, de l'évolution de l'architecture du patrimoine bâti. Il va donner des avis, des conseils techniques, des recommandations techniques. Nous, au parc national, en cœur de parc national, donc plus sur les hauteurs dans notre secteur protégé, on va également donner des prescriptions sur les permis de construire. Donc ça, c'est tout l'aspect réglementaire. Le document d'urbanisme, c'est une réglementation locale qui est appliquée donc par la commune, où là, effectivement, on va également avoir des recommandations, des règles, en fait, des règles qui s'appliquent. C'est vrai que quand on fait évoluer un bâtiment, quand on dépose une demande de permis de construire ou de travaux sur un bâtiment, quand on change une menuiserie, on change une fenêtre, on ouvre un mur, etc., il faut demander une autorisation. Et en fait, on l'aura si on respecte les règles locales. Après, ce qu'il faut aussi retenir, je pense, parce qu'il n'y a pas que la règle, il y a aussi ce qui est intéressant, c'est de faire évoluer ces bâtiments. C'est de les respecter, bien sûr, mais c'est pas de faire du pastiche ancien. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait des familles dedans, c'est qu'il y ait des gens à l'intérieur. Donc, avoir une vision strictement réglementaire, c'est pas ça qui est intéressant. C'est faire un peu d'accompagnement technique, de règlement, et également des opérations pour créer du logement confortable qui soit valable au XXIe siècle, pour qu'il y ait des gens dedans, quoi.
Direction l'île Odide, place de la mairie. Wouhou. On arrive derrière le château qui est le siège du parc national des Cévennes. Grosse histoire.
Ce château?
Ouais.
Ou le parc? Bah les deux en fait. Ah oui, grosse histoire. Histoire passionnante. Histoire de la ville, du territoire, de ce qu'on en fait en fait. C'est toutes les décisions de ce qu'on crée autour de ce territoire incroyable, cet espace de moyenne montagne très différent, très puissant. Il a fait l'objet de plusieurs rénovations successives et ouais, c'est le siège du parc depuis quelques dizaines d'années maintenant. Et figure-toi que ça a même été une prison, il fut un temps, je crois que c'était au 19e.
Donc nous voilà à la place de la mairie, magnifique place alors qui a été un peu en désuétude pendant quelques années. Et là on peut dire que depuis 2 ans maintenant, la municipalité a vraiment mis la main à la pâte pour qu'elle redevienne ce qu'elle était, un lieu de vie et un beau lieu architecturellement parlant.
Ouais, là on est dans le centre ancien de Florac et ces centres anciens, ces centres-bourgs, ils font un peu l'objet d'un désamour en fait en France et particulièrement en Occitanie où il y a beaucoup de villes moyennes comme Florac, même un peu plus grandes. Et c'est vrai que les gens ont un peu déserté ces endroits avec des rues étroites, sans jardin. Et avec des appartements où il n'y a pas d'espace extérieur. Et ça a mis en difficulté, ça met toujours en difficulté pas mal de petites villes ou de villes moyennes. Alors heureusement, il y a des programmes pour aider ça, puis il y a des élus pour prendre à bras le corps, pour réaliser en fait des opérations un peu d'envergure. Et l'île Audite, c'est de ça dont il s'agit. La commune a créé 9 logements. Alors avec l'aide de l'État, des fonds ad hoc, hein, ils sont allés chercher de la subvention parce que ça coûte cher. Mais surtout, ce qu'ils sont allés chercher, c'est des compétences en architecture. Là, en fait, on a besoin de compétences pour créer des logements intéressants, confortable, avec des espaces extérieurs, des petites terrasses, des balcons, le minimum qui fait que ils sont attractifs en fait. Donc on a envie de réinvestir des espaces dans le centre ancien, en plein cœur du centre ancien de Florac. Et puis du coup, comme il y a des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, ça crée une petite dynamique et donc on peut aller faire ses courses à pied, etc. Et en fait, c'est toute une logique de revitalisation de ces centres-bourgs qui prend corps, quoi. Et là, en fait, ce qu'il faut, c'est des compétences, c'est de l'architecture, des artisans qui savent faire des enduits, qui savent retaper des bâtiments anciens, qui savent s'attaquer à des murs en pierre, comme on le disait tout à l'heure, de 80 cm d'épaisseur, etc.
Donc le château n'est pas monument historique. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de règles entre guillemets pour le bâti autour ?
Alors le château n'est pas monument historique, mais on a un autre monument historique, un élément classé monument historique à Florac, c'est la porte de la maison de la congrégation qui est juste un petit peu... Donc là on est dans le périmètre, on appelle ça le périmètre du monument historique, à l'intérieur duquel l'architecte des bâtiments de France va donner un avis. Donc là, de toute façon, il s'agissait évidemment de faire une rénovation qui respectait le bâti ancien, mais à l'intérieur, en fait, il y a eu plein de liberté sur les appartements pour en faire des appartements confortables et puis un peu aux normes de notre société, quoi.
L'urbanisme fera quoi demain, tu le vois comment ?
Moi, je ne suis pas élu à la commune, mais je sais que j'ai discuté avec les élus sur leur futur document d'urbanisme. Je sais qu'il y a des volontés, il y a des souhaits de maintenir une agriculture de proximité, des espaces agricoles, de conserver un peu les terres les plus riches dont on parlait tout à l'heure, et puis d'autres aussi, pour qu'il y ait toujours des activités, en fait. Moi, ce que j'imagine, c'est Florac est une ville très dynamique, très, très active. Et ce qu'il faut, c'est avoir une espèce de mosaïque d'activités, donc de paysages. Il faut du centre ancien rénové, actif, commercial. Il faut des parties où on habite un peu plus résidentielles comme il en existe aujourd'hui. Mais également, il faut garder tous ces espaces, ces grands espaces paysagers autour de la ville qui font aussi la bonne transition entre l'espace naturel et le centre ancien. Et puis qui font de l'activité, notamment de l'activité agricole.
Merci beaucoup Eric.
Je t'en prie.
Je rappelle que tu es chargé de mission urbanisme et paysage au parc national des Cévennes. À très bientôt.
Merci, au revoir.
Ici à Sfax. Et voilà pour ce reportage. Avant de refermer cette matinale, je tiens à remercier chaleureusement Émilie pour m'avoir remplacé lors de la matinale du 15 février dernier. C'était super, une super matinale que vous pouvez réécouter sur Radio Bartas. .net. De plus, le lundi 13 mars prochain, nous recevons Flore Théron, qui est maire de Florac. N'hésitez pas, auditeurs, auditrices, à nous envoyer vos questions ou vos remarques sur notre mail contact@radiobartas.net. Nous ferons un plaisir de relayer votre parole, vos questions. À ce moment-là, Radio Bartas, c'est bien sûr votre radio. C'est la fin de cette matinale. N'oubliez pas, mardi, c'est la manif et ça se passe à Mende à partir de 10h30. Nous serons également en grève ici à Radio Bartas. Mais on se retrouve mercredi avec Marc Lemonnier pour parler d'un super truc qui se prépare. Ce sera dans quelques temps les 100 ans de la... Roger Lagrave, personnage emblématique de Florac, aurait eu 100 ans. Ils vont donc organiser un événement à cette occasion. On en parle mercredi avec Marc. Voilà, merci à toutes et tous de nous suivre. Passez une excellente journée. Cette émission est rediffusée le mardi à 17h et vous pouvez la retrouver sur notre site radiobartas.net. Restez bien sûr Bartas, on n'y est pas trop mal. Et on se quitte avec Yann Tiersen. Voilà, je savais que j'allais la faire avec Thomas Fersen. C'est pas du tout la même chose. Le morceau s'appelle Monsieur. Passez une excellente journée. À mercredi. Ciao.
Les passants sur son chemin soulèvent leur galure. Le chien lui lèche les mains. Sa présence se rassure. Voyez cet enfant qui bugle, par lui secouru. Et comme il aide l'aveugle à traverser la rue, dans la paix de son jardin, il cultive ses roses. Monsieur est un assassin. Quand il est morose, il étrangle son semblable. Dans le bois de Meudon, quand il est inconsolable, quand il a le bourdon à la barbe des voisins, qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin. Je suis son domestique et je classe le dossier sous les églantines. Je suis un peu jardinier et je fais la cuisine. Il étrangle son prochain quand il a le cafard. Allez hop dans le bassin sous les nénuphars. Et je donne un coup de balai sur le lieu du crime où il ne revient jamais, même pas pour la frime. Sans éveiller les soupçons, aux petites heures nous rentrons à la maison. Je suis son chauffeur. La 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 la. Son air anodin, c'est un lunatique. Monsieur est un assassin. Chez lui c'est chronique. Il étrangle son semblable lorsque minuit sonne. Et moi je pousse le diable dans le bois de Boulogne. Le client dans une valise avec son chapeau prendra le train pour Venise. Et un peu de repos, il étrangle son semblable dans le bois de Meudon. Quand il est inconsolable, quand il a le bourdon à la barbe des voisins, qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin. Je suis son domestique. Vous allez prendre monsieur, je vais perdre ma place. Vous allez prendre monsieur, hélas, trois fois hélas. Mais il fallait s'y attendre, et je prie votre honneur humblement de me reprendre comme serviteur. Et je classerai ce dossier sous les églantines. Je suis un peu jardinier et je fais la cuisine.